Bienvenue sur Fréquence Mistral à Digne avec l'émission L'Histoire des Féministes. On continue une émission réalisée par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour Tiffany. Eh bien, nous en sommes aujourd'hui à la 13e émission de notre Histoire des Féministes et nous sommes toujours dans la deuxième vague. C'est dans la deuxième moitié de la décennie 1970 que commencent à changer les représentations quant au partage du pouvoir entre les sexes, les Français et plus encore les Françaises se montrant favorables à l'exercice par les femmes de fonctions politiques importantes. Cela sera l'objet de notre toute dernière émission en décembre 2024. Mais comme nous sommes en ce mois de novembre, dans le mois où se situe le 25 novembre, qui est, comme nous le savons toutes et tous désormais, la date internationale d'action contre toutes les violences masculines faites aux femmes, instaurée par les Nations Unies en 1999, nous parlerons aujourd'hui de la violence extrême, hormis les féminicides, que constituent le viol et les agressions sexuelles des hommes envers les femmes. Rappelons que c'est un phénomène culturel très ancien et permanent depuis des siècles, mais au cœur de l'actualité sociale en ce moment même, ici en France, où le procès dit de Mazan, un procès majeur, sensationnel, qui s'est ouvert le 2 septembre et se terminera fin décembre à la Cour criminelle du Vaucluse pour juger 51 violeurs d'une seule femme. En France, jusqu'au milieu des années 1970, les crimes sexuels sont quasiment absents des débats publics. On le voit dans le livre de Valérie Rey-Robert, R-E-Y-R-O-B-E-R-T, intitulé « Une culture du viol à la française », édition Libertalia 2019 et 2021. Les féministes elles-mêmes en parlent très peu, concentrées qu'elles sont, on l'a vu, sur les questions de la contraception, de la dépénalisation de l'avortement et finalement de la création de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Mais peu à peu, les féministes tentent de contrer les discours sociaux inspirés de Freud, ce psychanalyste du 19e siècle et début 20e siècle, qui présentait les femmes comme des êtres qui ont le désir d'être forcées, violentées dans les rapports sexuels. Il y a alors une prise de conscience féministe face au viol et elles vont lui donner un sens politique. Pour expliquer cela, nous avons une référence. Le procès d'Aix-en-Provence de 1978, un tournant dans cette prise de conscience. Pour décrire les circonstances de ce procès, j'utiliserai de larges extraits de deux livres, l'un déjà cité, « Une culture du viol à la française », et l'autre, « Violence sexuelle, en finir avec l'impunité », sous la direction d'Ernestine René et Édouard Durand, édition Dunod 2021. Voici donc ces circonstances. Le 21 août 1974, deux touristes belges, Anne Tonglet, T-O-N-G-L-E-T, et Arceli Castelleno, C-A-S-T-E-2-L-A-N-O, font du camping dans une des calanques bord de mer des environs de Marseille. Elles sont attaquées, frappées, violées et menacées de mort par trois hommes inconnus. Bien que traumatisées, elles ont le courage de porter plainte immédiatement. Le lendemain des viols, elles subissent un examen médical d'une extraordinaire violence. Il s'agit, pour les médecins, d'aller chercher dans leur intérieur, dans leur vagin, les traces de blessures internes susceptibles de prouver qu'elles ont bien été forcées. Car on ne les croit pas, on les soupçonne de mentir, d'exagérer alors qu'elles sont sous le choc et traumatisées. Un médecin rassemble même ses étudiants devant les victimes pour discuter de leur cas et dit que ce qu'elles ont vécu, j'ouvre les guillemets, n'avait pas tellement d'importance. C'est odieux. L'examen médical conclut donc que rien ne prouve que le coït n'était pas volontaire. Arceli, enceinte après ce viol, doit en plus subir un avortement, encore illégal en Belgique. Il y eut 3 procès dans cette affaire qui a duré pas moins de 4 ans. Premier procès en 1975 à Aix-en-Provence au tribunal correctionnel. Les victimes décrivent en détail ce qu'elles ont subi, qu'elles ont été obligées de baisser la garde par peur d'être tuées, peur de mourir, ce qui fera dire à la présidente du tribunal « vous étiez consentante » et requalifier l'acte en « coups et blessures ». Ceci évidemment pour déresponsabiliser les agresseurs. Deuxième procès en 1976. Les victimes font appel. Elles engagent Gisèle Halimi, avocate de la cause des femmes, pour les défendre. Elles obtiennent que le tribunal correctionnel se déclare incompétent et que le procès soit renvoyé en cour d'assises pour faire reconnaître leur viol comme un crime. Le troisième procès, celui qui est resté dans les mémoires des féministes et dans l'histoire, avec un grand H, comme le procès d'Aix-en-Provence, a lieu les 2 et 3 mai 1978 dans cette ville. Les associations de féministes et de nombreuses femmes, pas les hommes, se mobilisent pour demander la condamnation des violeurs. Comme elle l'a fait lors du procès de Bobigny au sujet de l'avortement, Gisèle Halimi plaide un procès politique, posant la question de la pénalisation du viol à la société tout entière, hommes et femmes. Dans sa plaidoirie, elle aborde, et ceci se passait en 1978, je le rappelle, c'est-à-dire il y a exactement 46 ans, elle aborde les questions toujours présentes dans le débat en 2024 du consentement des victimes, de leur culpabilisation, du déni des agresseurs et de leurs proches, de leur déresponsabilisation, bref, de l'extrême tolérance sociale vis-à-vis de ce crime masculin, confinant à la complicité de la société avec ses criminels, grâce à la solidarité que manifestent les hommes avec eux par leur silence et leur indifférence. Je vais lire un large extrait de la plaidoirie de Maître Halimi, avocate des parties civiles, où l'on retrouve tous les thèmes des débats actuels. Donc je cite cette plaidoirie. « Mesdames et messieurs, je le dis en commençant, je le redirai peut-être devant d'autres cours d'assises. Nous pensons que la justice est un révélateur. C'est le révélateur d'un niveau de civilisation, notamment à propos du viol, ce drame particulier, qui ne ressemble à aucun autre crime. Nous le savions jusqu'à présent, nous l'avions entendu, que lorsqu'une femme était violée, elle l'avait cherchée, de toute manière, elle l'avait provoquée. Si elle ne l'avait ni cherchée, ni provoquée, elle avait fait du stop. Elle était vêtue comme il ne fallait pas l'être. Et puis, de toute manière, si elle ne l'avait cherchée, ni provoquée, eh bien, il n'est pas certain que le viol fasse tellement mal. » Au fond, comme disent certains accusés, en cherchant la complicité avec leurs interlocuteurs masculins, « Vous savez ce que c'est, messieurs les juges, nous sommes des hommes. C'était une rigolade, on les a dragués, un peu forcés, enfin il n'y a pas de quoi en faire un drame. » C'est la preuve que notre combat est loin d'être terminé. C'est la discussion autour de la fameuse thèse du consentement. À peu près 99 fois sur 100, quand une femme est violée, il n'y a pas de témoin. Et par conséquent, 99 fois sur 100, les violeurs qui expliquent tout ce qui a pu se passer auparavant concluent « Oui, mais à ce moment-là, elles étaient consentantes. » Le drame de cette attitude, c'est que, qu'on le veuille ou non, nous sommes acculés, nous, plaignantes, à devenir accusés, à essayer de vous démontrer que « Mais non, nous n'avons pas consenti. » Bref, le procès n'est plus le même. Les plaignantes deviennent des accusées si elles doivent prouver qu'elles n'ont pas consenti. Il y a une chose abominable en soi s'agissant du droit pour une femme de dire non. Et quand une femme dit non, il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. C'est non, ce n'est pas oui. Les choses sont claires. Ou, si elles ne le sont pas, je pose la question. Comment une femme qui ne veut pas être violée doit-elle le dire à son potentiel violeur ? Elle refuse d'ouvrir la porte, elle refuse son dragage, elle lui dit non, elle tente de le dissuader, en dernier ressort, elle reçoit des coups, elle est blessée, elles sont blessées. Que se passe-t-il ensuite ? Reprise de la violence, menace de mort, menace de sévices sexuels, menace d'égorgement, et enfin, il y a viol. Le viol dans son horreur, le viol dans son saccage. Et ces femmes ont, comprenez-le bien, peur de mourir. Oui, qui ici oserait dire qu'une femme violée n'a pas peur de mourir, soit avant le viol, soit pendant, soit surtout après. Et ces femmes qui ont peur de mourir, qui sont anéanties, harassées, battues, humiliées, cessent de se débattre. Elles cèdent, et c'est cela qu'on appelle le consentement. Elles cèdent, et vaincues, inertes, elles subissent. Et on appelle cela le consentement. Là, je fais une parenthèse. On trouve ce mot « céder n'est pas consentir » dans les manifestations de féministes. « Céder n'est pas consentir ». Bon, je reprends. Cette théorie du consentement pose la question « Jusqu'à quel point une femme violée doit-elle résister ? Allez-vous dire que c'est jusqu'à la mort ?» Y a-t-il un type de femme qu'on viole ? Est-ce qu'il y a des femmes qui le cherchent ? Est-ce que ça n'est pas le fait, finalement, d'exister en tant que femme ? Le viol est peut-être le seul crime, c'est ainsi, il faudra y réfléchir, l'analyser, mais c'est ainsi, qui échappe totalement à l'analyse des clivages de classe. On viole dans toutes les classes sociales, à l'intérieur des mêmes classes, d'une classe à l'autre. C'est ce qui fait dire aussi aux manifestantes féministes « les violeurs sont partout ». Je ne vous dis pas qu'un jugement de condamnation sera la solution. Les vrais changements sont ceux qui font que la société accepte elle-même de se remettre en question, contre le viol, mais aussi contre la violence. C'est ce fondement culturel qui fait que de tout temps, c'est ainsi, on a toujours violé les femmes. Une soldatesque, les soldats, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'idéologie, le pays, la cause défendue, a pour premier butin les femmes. On viole et l'impunité est totale. Dans l'esprit de ces hommes et ces courants, le viol n'est pas considéré comme un crime de société et les violeurs, très souvent, expriment cette espèce d'étonnement. Il n'est pas évident que violer soit un crime. S'il y a des peines d'emprisonnement, s'il y a une sanction pénale, peut-on affirmer pour autant que les violeurs condamnés ne seront jamais des récidivistes ? Je ne le crois pas. Je voudrais simplement attirer votre attention, mesdames et messieurs, sur l'importance capitale de votre arrêt pour l'avenir. Je ne dis pas qu'un jugement de condamnation va refaire des femmes violées, des femmes neuves, jamais. Mais je dis qu'au moins, elles n'auront pas le sentiment d'avoir eu une identité gommée, une existence effacée, d'avoir été niée dans ce qui est le plus important pour une femme, pour un être humain, son intégrité physique, morale, son affectivité et sa sexualité. Réprimée par le viol, réprimée par la suspicion, réprimée par la société, ces femmes ont eu recours à vous, à votre justice, pour elles, pour nous, pour que naisse entre nous tous, hommes et femmes, une forme nouvelle de rapport. Question de culture, en somme, ce procès. Alors, lors du procès, comme aujourd'hui dans le procès de Mazan, des appels à manifestation sont prévus. Le juge reçoit des centaines de télégrammes de soutien aux victimes. Hors du palais, féministes et soutien reçoivent insultes et crachats. Les masculinistes et leur soutien se déchaînent. Gisèle Halimi est même frappée. Mais le verdict est sans appel. Le viol devint un crime ce 3 mai 1978, lorsque l'un des violeurs est condamné à 6 ans de prison et les deux autres à 4 ans. Cette prise de conscience est concrétisée par l'adoption et la publication de la loi de 1980, plus exactement la loi numéro 80-1041 du 23 décembre 1980, qui définit les agressions sexuelles et le viol. Elle opère un changement de regard. Au lieu de ne regarder que ce qu'a fait ou pas fait la victime, la loi met le projecteur sur les moyens utilisés par l'agresseur. Pour pénétrer la victime, l'agresseur a-t-il utilisé un doigt, son pénis ou un objet ? A-t-il utilisé la contrainte, la menace, la violence ou la surprise ? la définition du viol par l'article 222-23 du Code pénal est donc celle-ci. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Alors, nous sommes arrivés à la pause musicale et nous allons écouter un extrait du concerto pour clarinette en la majeur de Mozart. Je reprends donc la suite de notre récit. En 1985, les féministes du MFPF, le planning familial, les féministes de Solidarité Femmes, du mouvement Jeunes Femmes et de la Maison des Femmes s'unissent pour créer un collectif d'associations, le collectif féministe contre le viol, pour réagir contre les viols commis dans les lieux publics devant des témoins passifs. Et ce, avec l'appui d'Yvette Roudy, R-O-U-D-Y, alors ministre des Droits de la Femme. En 1989, ce collectif deviendra une association pour pouvoir se porter partie civile devant la justice. On passe donc insensiblement du combat féministe militant à la cause publique institutionnalisée, et cela annonce le déclin de la deuxième vague des féministes militantes. Déclin relatif, car elles ont toujours été actives, bien que moins médiatisées. Le 8 mars 1986 est ouvert le numéro vert national gratuit viol-femme-information afin d'offrir dans l'anonymat, pour rassurer les victimes, une permanence d'écoute téléphonique aux femmes. C'est le numéro 0800 05 95 95. Car la toute première étape à franchir pour une femme violée ou agressée par un homme est sa capacité à concevoir qu'elle a été victime d'une agression, c'est-à-dire d'un acte interdit et sanctionnable. Or, ceci n'est pas facile. Depuis le 8 mars 1986, nous dit Marie-France Casalis dans le livre précité « Violence sexuelle, en finir avec l'impunité », Viol Femmes Information a reçu la parole de très très nombreuses victimes de viol. Le viol est difficile à décrypter comme tel par les victimes elles-mêmes, car les 9 dixièmes des auteurs sont des hommes proches qui ont toute la confiance et même l'affection de leurs victimes. Des maris, des pères, des frères, des amis, des collègues. Ils sont rarement conformes à l'image stéréotypée et bien commode du violeur inconnu qui agit par surprise le soir au coin d'un bois ou d'une rue mal éclairée munie d'un couteau, même si cela arrive évidemment. C'est pourquoi il est difficile pour les victimes de les voir comme ceux ou celui qui vous a pénétré de force ou agressé par des baisers forcés, des caresses et des attouchements surprises humiliants sur les parties intimes de votre corps de femme et de fille. Alors, il est impossible de ne pas faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société française avec les procès en cours. Les féministes se divisent sur le fait d'introduire ou non la notion de consentement dans la définition du viol, en plus des quatre mots précités « violence »,« contrainte »,« menace » ou « surprise ». La surprise se rapproche du consentement, ou plutôt du non-consentement à l'acte. La sidération, c'est-à-dire la paralysie physique par la peur, se rapproche de la surprise. Cela peut être suffisamment explicite. Introduire la notion de consentement, disent certaines féministes de la deuxième vague défenseuse des femmes violées depuis longtemps, serait, encore une fois, faire supporter à la victime la charge de la preuve du crime. Ce serait nuire à sa crédibilité déjà si mise en doute par la justice, une justice qui n'est que le reflet de la société. D'autres défenseuses de la cause des femmes, depuis longtemps elles aussi, font valoir que ce serait au contraire acculer le violeur à s'expliquer en lui posant la question « Est-ce que vous saviez qu'elle consentait ? Avez-vous cherché son accord explicite verbalisé ?» À condition de bien préciser la signification de ce mot, ce serait donc un outil supplémentaire dans la vérification de la responsabilité entière du violeur. D'ailleurs, cette notion de consentement a déjà été introduite dans le droit canadien, le droit belge ou le droit espagnol. En France, la réflexion est en cours. Il est remarquable aussi que la préméditation ne soit pas prévue par le législateur en ce qui concerne le crime de viol, alors qu'elle l'est pour les autres crimes. La préméditation, facteur aggravant d'un crime, c'est la recherche de l'élément intentionnel, la préparation du crime. La conséquence serait alors d'aboutir à deux catégories de violeurs, les graves, avec préméditation, et les moins graves, ce qui risquerait d'être défavorable aux victimes. Je cite là Didier Rebut, R-E-B-U-T, juriste expert en droit pénal reconnu comme une référence en France. Ce sont là de véritables débats sociologiques actuels, à suivre avec intérêt évidemment lorsqu'on a à cœur la cause des femmes et des filles. Mais la crainte, en voulant les défendre, de nuire à la crédibilité de la parole des victimes, de leur parole, dans une société où persistent les rapports de domination des hommes sur les femmes, où la justice n'a jamais cessé de protéger les hommes. À l'heure des contre-attaques masculines, virulentes, violemment misogynes, face au succès médiatique de la prise de parole publique de femmes célèbres, mettant en cause des hommes célèbres, et des féministes qui leur ont emboîté le pas, bien sûr. Elles sont accusées d'exagérer, de faire fausse route, de vouloir dominer les hommes, de les détester, d'être revanchardes, etc. Or, l'objectif des féministes, aujourd'hui comme en 1978, c'est, répétons-le, l'extinction du patriarcat, l'aspiration à une société apaisée, c'est-à-dire la fin de l'hégémonie masculine, la fin des violences perpétrées sur les femmes, la fin des valeurs dites viriles, encore enseignées aux garçons et qui sont nuisibles à la société tout entière. La preuve, Lucille Pétavin, P-E-Y-T-A-V-I-N, a listé dans son livre « Le coût de la virilité » paru en 2021 aux éditions Anne Carrière, les statistiques officielles, ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, les statistiques officielles accablantes pour les hommes de tous âges et de tous les milieux sociaux. Elle montre que la virilité est la cause première de la délinquance et de la criminalité. Voici ce qu'elle constate, pages 108 et 109 de son livre. J'ouvre les guillemets. « Les hommes représentent la très très grande majorité des criminels, notamment concernant les crimes sexuels, où leur taux atteint presque 100%. Ils sont également surreprésentés dans les types de délits les plus graves, comme les violences sexuelles, les violences conjugales, les vols avec armes ou les infractions routières ayant entraîné des accidents mortels. Notre société fait silence sur ces faits, pourtant connus et mesurés. Éduquer les garçons au respect des règles et au respect de l'autre sexe n'est toujours pas accepté. Subsiste un refus massif de reconnaître que les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles, s'inscrivent dans un système de domination culturelle ancestrale des hommes sur les femmes. C'est une pratique courante, considérée comme normale, ce qui la rend possible en la tolérant, voire en l'encourageant. Dixit Éric Fassin, sociologue. Aussi, voit-on peu d'hommes dans les mobilisations populaires contre les comportements sexistes, les harcèlements et crimes envers les femmes. C'est parce que, globalement, ils savent qu'ils sont dans le camp des auteurs de ces actes. Ils sont peu nombreux à se désolidariser de ces criminels, leurs congénères, se comportant ainsi, consciemment ou inconsciemment, comme des complices par leur silence. Ce que demandent les féministes, H.A.com, c'est une transformation radicale de son comportement, une remise en cause de son éducation virile, de ses privilèges, et cela sans chercher à être applaudi, félicité ou récompensé. Alors, comme nous avons commencé avec Gisèle Halimi, nous allons lui réserver le mot de la fin. En 2019, Gisèle Halimi, avocate féministe de la deuxième vague, ayant, comme on l'a vu, largement contribué à faire avancer son temps, disait, c'est vraiment le mot de la fin, « Je suis encore surprise que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale. » Voilà, c'est la fin de cet épisode. Prochain épisode en décembre.
Jacqueline, vous vouliez parler du 25 novembre, qu'on y est bientôt. Le 25 novembre, une date bien connu.
Oui, voilà. Alors, le 25 novembre, en ce qui concerne Femmes solidaires, nous faisons une exposition les 22 et 23 novembre à la maison de quartier du quartier Pigeonnier-Barbejas, une exposition commentée qui a pour titre « Violence, elles disent non », 17 panneaux présentant 8 principales formes de violence masculine envers les femmes. Et également, lundi 25 novembre, nous inaugurons un banc rouge à 11h à la Maison des Jeunes et de la Culture de Château-Arnoux-Saint-Auban. Il y a d'autres actions par d'autres associations. Par exemple, les rencontres cinématographiques, dès ce soir, on est le 5 novembre, à 20h30, présentent un film espagnol au Centre René Char, traitant du harcèlement moral et sexiste. Et puis, la ville de Digne-les-Bains, le lundi 25 novembre, à 13h30, fera un rassemblement devant le banc rouge, place Général de Gaulle, avec un discours de Madame le maire ou d'une conseillère municipale. Il y a aussi le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui, le lundi 25 novembre, toujours au Centre culturel René Char, présentera une rencontre avec l'Amicale d'Unis des Bouches-du-Rhône sur le thème « Déconstruisons les idées reçues sur la prostitution ». La prostitution étant vue comme une violence masculine faite aux femmes. Et il y a également un collectif qui s'appelle 8 mars toute l'année, qui le samedi 23 novembre, de 14h à 16h, dans la salle des archives, aux archives départementales, fera une table ronde sur les violences sexuelles et sexistes. Voilà tout ce que je sais moi-même, mais il y a peut-être d'autres actions en cours.
Voilà. Merci Jacqueline, bonne journée à toi et à toutes et tous.
Bonne journée, au revoir.